Sud Radio, il est 1h. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.
Et on est ensemble avec vous pour commenter l'actualité avec ce matin Jean-Christophe Gallien, politologue et conseiller en communication, Mathieu Bachialone, communicant, président de M2B Conseil, Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique, et Jean-Baptiste Moreau, porte-parole du think tank Agriculture Stratégie. Et Agriculture Stratégie, oui, vous êtes ancien agriculteur.
Ancien député.
On va faire le CV entier. On va parler de la montée des actes antisémites en France, plus 300%. Et on va parler également du droit de grève. Est-ce qu'il faut l'encadrer? Est-ce que c'est possible? Parce que j'ai l'impression que c'est un marronnier. Ça fait à chaque fois on en parle et il se passe rien. On va continuer notre tour de table avec ce qui a retenu votre attention. Évidemment, cet hommage à Bernard Pivot que vous vouliez lui rendre, Sophie, ce matin.
Absolument, parce que d'abord.
Alors, tiens, juste avant, je vais vous faire peut-être un petit bout de son questionnaire aux uns et aux autres. Votre mot préféré, Sophie? Réfléchissez les autres. Je t'aime, d'accord. Vous, Jean-Christophe?
J'allais dire pas. C'était pas le, je t'aime, c'est l'amour, en fait. Voilà,
l'amour. Mais, tu vois. Bon, pas très original, j'aurais dit ça aussi. Oui, aussi. Amour, bien sûr.
Liberté, moi le même que Bernard Pivot, gourmandise. Le mot que vous détestez?
Putain.
Ah bon?
Cette insulte que tout le monde dit maintenant, oh putain, je hais cette expression.
Et alors votre gros mot préféré ou juron préféré,
merde.
Sophie? Merde?
Oui.
Alors moi j'aime pas la haine, ouais. et j'aime bien dire fais chier quoi. Là, tu vois, c'est ça.
Ouais, la haine c'est un, nous avons des collections aussi, c'est un mot qui est assez agressif et qui est comme juron, j'aime bien putain moi.
Ah,
oui, ça marche bien.
Mais je déteste ça.
Ça fait déjà un premier désaccord, Sophie.
Ouais. Et Jean-Baptiste, le mot que vous détestez, ouais, votre juron préféré.
C'est vulgaire.
Juron préféré, oui, mais... merde aussi. Ouais.
Merde? Ah bon? Ah. C'est connard.
Oui, connard aussi.
Ah, oui, c'est pas mal.
Oui,
moi aussi, j'aime bien.
Aussi,
oui.
Mais quand il disait le mot détester, c'est le mot...
Oui. Le vrai mot.
Le
oui.
mot...
Ça, c'était les insultes.
Voilà. Oui. Non, mais le mot, c'était
bienveillant.
Plus, ah oui, bienveillant, voilà.
Je supporte pas la bienveillance.
Oui, vous avez raison.
Oui, c'est vrai. Ça, moi aussi, ça m'énerve assez, parce que ça confine à la bêtise, souvent.
Et alors, si Dieu existe, sa fameuse question, qu'aimeriez-vous qu'après votre mort, l'entendre vous dire?
Je vous renvoie sur Terre.
Ah. Vous n'avez pas envie de mourir.
Non. Bienvenue.
Jean-Christophe, bienvenue. Bon.
Allez, tu peux quand même rentrer.
Et.
Salam alaikum.
Pardon?
Salam alaikum. Non, mais pour l'œcuménisme.
Okay. Moi, j'aimerais qu'il dise je n'existe pas.
Ouais.
Ah. C'est joli, voilà. Ça, comme réponse.
Alors, Sophie, vous vouliez lui rendre hommage?
Alors, je voulais lui rendre hommage. Tout a été dit, évidemment, donc je ne vais pas répéter. Je vais vous dire un peu ce que des choses plus qui ont rapport à lui. D'abord, il incarnait la culture, et je voudrais en profiter pour citer Jean-Marie Rouard, qui a dit à propos de la grande librairie, qui est supposée remplacer un petit peu les émissions littéraires, que c'était une veillée funèbre d'un comité d'entreprise du syndicat Sudrail. Hein? Et je crois que c'est assez bien vu. Donc on n'a pas d'émission littéraire. Lui, il avait une émission littéraire qui était pratiquement de la variété.
C'était de la gourmandise, c'est ce que disait le libraire tout à l'heure, c'est qu'il était gourmand et curieux. Je crois que c'était ses deux
curieux.
Mots.
Et alors il était très amusant parce que j'ai joué pendant 7 ans au tennis à côté de lui. Malheureusement, une seule fois avec lui. À côté de lui, il avait un double tous les dimanches. Et alors, les éditeurs se battaient pour aller jouer en double. Il adorait le tennis. Il n'était pas un formidable joueur, faut être honnête. Il avait les.
Il a
d'autres qualités, mais il était un assez bon joueur. Mais il y avait des joueurs de tennis, éditeurs, qui étaient des génies au tennis, qui allaient mollo quand ils renvoyaient. Donc, c'était extrêmement sympathique. Il adorait ça. Et puis, je voudrais terminer en disant que, comme il incarnait la culture, je suis aussi très déçue qu'il y ait une émission Les chiffres et les lettres qui disparaissent en même temps. Et je suis désolée, la culture populaire, tout ce type de mobilisation, de motivation, de curiosité, c'est ce qui faisait la France, c'était formidable. Et donc j'espère qu'avec Pivot ne s'en va pas tout ce qui nous faisait réfléchir, lire, et c'était merveilleux, les gens qui qui lisait pas allait chez Pivot. On achetait le Pivot même si on ne lisait pas.
Non, mais c'est vrai qu'il arrivait à lire, à rendre la lecture populaire, ce qui est.
Mais absolument.
Il y avait des vrais débats, il y avait une vraie animation. Enfin, et c'était.
Et puis des gens très.
Moi, je me souviens, j'étais pas vieux pourtant, et je regardais régulièrement parce que ça
on
bougeait.
On avait le droit. Pas, voilà. Moi, j'avais le droit de pas regarder la télé, mais je pouvais regarder
et
Pivot.
Et c'était pas soporifique comme beaucoup d'émissions culturelles ou pseudo-culturelles.
Et d'ailleurs, c'était toute une époque parce que je regardais hier Bernard-Henri Lévy qui était invité régulièrement chez Pivot, et ils étaient tous en train de fumer, les auteurs.
Oui, c'est ça, c'est ce qu'on disait, que ça nous surprend maintenant quand on voit ces images.
Juste le verre de Ricard ou le verre de vin rouge.
Quelqu'un taclait Bernard-Henri Lévy en disant l'hommage qu'il lui a rendu, c'est de montrer sa tronche, pardon, pas d'autres mots, à l'époque où il passait à
Post-Rof. Oh, il est formidable, Bernard-Henri Lévy, dans son genre. C'est voilà.
Non, mais bon, c'était un petit tacle sur les réseaux. Juste un mot aussi sur Bernard Pivot a très longtemps tenu une chronique littéraire au Journal du Dimanche. Oui. Quand il a décidé de s'arrêter pour des raisons de santé, il a raconté, puisqu'il tweetait beaucoup, que les livres avaient cessé d'arriver chez lui, c'est-à-dire que les éditeurs l'ont retiré de la liste des livres. Ça dit beaucoup de notre époque, Jean-Christophe.
Oui, je crois que c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a dans Pivot, et c'est un petit peu cette nostalgie un peu félinienne là, que vous émettez. Là, finalement, c'est pas un regret, c'est assez joyeux finalement ce que vous racontez.
Oui.
Et donc lui, d'ailleurs, il était à la fois, à mon avis, il y avait trois fois symbolique. Il est symbolique d'un autre temps. Regardez, on reçoit avec Monsieur Xi Jinping. À l'époque, la France, c'était pas 44 milliards de déficit commercial avec la Chine. C'était pas être un nain par rapport à la Chine. On était plus fort que la Chine. C'est un autre temps. Il y avait un monde bipolaire. Aujourd'hui, vous voyez ce que c'est devenu.
C'était une autre France,
peut-être plus française, en effet.
Ouais.
Peut-être plus joyeuse, plus libre, contrairement à ce qu'on peut penser. On parlait de choses différemment sur son plateau. C'est un peu comme dans Droit de réponse. Il y avait des expressions qu'on pourrait plus aujourd'hui utiliser ou raconter. Donc, c'est quelque chose qui est aussi un peu plus vertical, parce que c'était une sorte d'instituteur aussi. Certes, c'était populaire,
mais
on pouvait pas tout remettre
la
en question. Il y avait une espèce d'autorité qui était là. Et donc, je pense que c'est une autre télé. Alors, loin de critiquer la télé d'aujourd'hui, c'était quand même un endroit où. D'abord, elle n'était pas délinéarisée. On avait rendez-vous. C'était un point important.
Absolument.
Vous avez dit vous-même, il y avait un rendez-vous. Donc là, on la choisissait pas complètement. Et puis, il y avait aussi du clash. Il y avait aussi du buzz. Mmh. Mais il était sur le fond simplement sur la forme.
Oui.
Il était à la fois sur le fond et la forme. Lévy savait très bien s'en servir. Mais, et lui aussi Pivot. Et donc ça, c'est très différent. Je pense qu'il y a un petit regard là-dessus aussi sur, non pas c'était mieux avant, parce que ça, c'est terrible de dire ça, mais sur quelque chose qui finalement raconte un peu ses évolutions. On est en plein dedans, hein, Xi.
La nostalgie, quand même.
Voilà.
Oui, et puis c'est.
Mais cette espèce de. Moi, j'aime pas nostalgique. J'aime bien celle de Fellini qui dit finalement, voilà, j'ai pas de regrets, j'ai juste des nostalgies.
Mais il s'était mis sur Twitter, mon nouveau moyen de communication, et je regardais le tweet qu'il avait envoyé il y a quelques temps où il disait, les journalistes sont tellement habitués de m'appeler quand des gens de la culture meurent.
Qui m'appelleront quand je meurs.
Ils sont capables de m'appeler.
Ce qui est formidable avec Pivot, c'est ce côté, il est pas enfermé dans une case. Et en France, on aime bien enfermer les gens dans des cases. Et lui, c'était formidable. Il était lettré et cultivé. En même temps, il était pas pédant. Il aimait le vin. Et il aimait le foot aussi. En France, généralement, on aime bien mettre les gens dans les cases. Si on aime le foot, on est forcément un beauf. Et si on aime, un cultureux, il faut qu'on soit chiant, qu'on ait mine grave, parce que sinon, c'est pas bien et c'est pas crédible. Pivot, c'était ça. C'était un certain esprit français, une légèreté. Et en même temps, à un certain niveau. Moi, j'ai pas connu. Enfin, je suis un peu plus jeune, donc j'ai vu les images de Lina. Et c'est vrai, quand on voit les séquences avec Bukowski et tout, c'est génial.
Ah oui. Et puis il recevait tout le monde dans le zapping ce matin. Gilles nous a passé des extraits, donc il y avait Gainsbourg, moi j'ai vu un extrait avec Cabu, il y avait un mélange des invités. C'est vrai que ce que nous disait aussi Gérard Collard, le libraire, c'est qu'on est revenu finalement dans les émissions littéraires aujourd'hui à une sorte d'entre-soi.
Exactement.
Et de choses extrêmement conventionnelles.
Et Jean-Marie Roy a vraiment des maisons d'édition qui font les émissions.
C'est un entre-soi politique en plus.
Politique, et puis les attachés de presse des maisons d'édition, des grosses maisons d'édition qui ont leur plan média qui font un peu les plateaux et la programmation éditoriale et littéraire.
Vous me permettez, avant de vous donner la parole pour votre coup de cœur, un coup de gueule sur la flamme olympique et tous ces gens qui vont la transporter. Alors, ce matin, on a eu Thomas Soto qui nous disait que Michel Platini n'avait pas été sélectionné, enfin qu'on ne lui a pas demandé de porter la flamme olympique. Il en conçoit un peu d'amertume, ce qu'on peut comprendre. Et à côté de ça, il y a un éboueur. Très bien que, cet éboueur, sociaux, oui. Que cet éboueur soit porte la flaque un éboueur. Moi, j'ai rien contre. Mais on prend ce type qui a un chapeau sur la tête, qui s'habille, qui fait le buzz. Pourquoi toujours prendre des gens qui font le buzz?
Le transgenre. Pourquoi vous avez vu la tête du transgenre?
Oui, bah c'est.
Non,
c'est...
alors je suis désolée. Je ne veux pas être présentée à la flamme olympique.
C'est une drag queen. C'est pas un transgenre.
Pardon,
c'est une drag queen. Donc l'idée,
parce
c'est de représenter.
Très, très compétente.
C'est toutes les tous les gens de la société soient.
Non, mais alors,
soit représenté.
Je ne veux pas être représenté par cette drag queen.
Mais on a cet éboueur qui appelle à la grève des éboueurs, qui n'est pas dans un respect total.
Qui a choisi encore?
Alors, c'est ça la question. Moi, je voulais poser la même question que Sophie, vraiment une question ouverte. Vous savez qui a choisi? Comment ça s'est fait? Est-ce qu'il y a eu un comité Théodule sous l'égide d'un ministère?
Non, je ne sais pas.
Non, je pense que là, on est.
C'est peut-être le président du comité de.
C'est peut-être. Le président tout seul.
Non, vous pouvez remonter plus haut. Il y a une organisation qui comprend effectivement le COJO, qui organise effectivement. Il y a évidemment l'Élysée, parce que c'est un acte aussi qui transcende les gens. Sûr. C'est pas que le ministère de la jeunesse et des sports. Là, en l'occurrence, ce qu'on a voulu apparemment, c'est d'élargir. D'habitude, c'est très sportif.
Oui.
Ce relais est très sportif.
Non,
moi, je suis assez d'accord. J'aurais souhaité que ça s'arrête au ministère des sports et pas que ça devienne un enjeu élyséen. C'est-à-dire que pour le coup, là. On tire des ficelles entre le sociétal, le social, et on mélange tout. Alors c'est une version qui peut exister. Hein. Je ne sais pas si elle existait dans d'autres pays. Je peux pas savoir si en 2012 à Londres c'était comme ça. Mais ils étaient quand même très centrés sur le sport, même si après leur fête à eux, la cérémonie d'ouverture était très large, très élargie.
Ça c'est différent.
Mais au moment du parcours, c'est vrai que là on a choisi quelque chose qui est très différent par rapport à d'habitude, et les sportifs, ils sont pas tout seuls, ça c'est
absolument
clair.
On se retrouve dans un instant avec vous pour continuer les débats.
Sud Radio Bordeaux 106 et en DAB+.
Sud Radio.
Parfois je pense à toi dans les voitures. Le pire, c'est les voyages, c'est d'aventure. Une chanson fait revivre un souvenir. Les questions sans réponse, ça c'est le pire. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là? Je me raconte des histoires pour m'endormir, pour endormir ma peine et pour sourire. J'ai des conversations imaginaires avec des gens qui ne sont pas sur la terre. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là? Toi si t'étais là. Je m'en fous si on a peur que je tienne pas le coup. Je sais que t'es là pas loin, même si c'est fou. Les fous c'est fait pour faire fondre les armures, pour faire pleurer les gens dans les voitures. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là?
Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.
Et nous sommes ensemble avec Jean-Christophe Gallien, Mathieu Bachialon, Sophie de Menton et Jean-Baptiste Moreau pour commenter l'actualité. Petite précision, on se posait la question, on s'interrogeait sur le fait de savoir comment sont désignés les porteurs de la flamme olympique pour le relais. Eh bien, c'est la nomination par un pair, c'est un appel à candidature, sélection par tirage au sort ou par jury ou encore désignation directe.
Non mais bientôt, on va tirer au sort les médailles. Hein.
Non.
Ah non, parce que c'est pas juste.
Mais là, c'est un peu, c'est un peu le fait du prince. Hier soir, la cérémonie des Molières avait lieu et prise de position très remarquée de Sophia Aram. Et c'est ce sur quoi vous vouliez revenir ce matin, Jean-Baptiste Moreau.
Alors, là non plus, je vais pas être du tout objectif vu que c'est une amie et une amie relativement proche. Donc
il faut changer d'amie un peu.
Voilà, ouais, j'ai des choix douteux, je sais, mais non, je suis excessivement fier qu'elle ait gagné le Molière. C'est amplement mérité et je voulais la saluer ce matin ainsi que son mari parce qu'ils écrivent bien souvent à quatre mains et leur spectacle est formidable. J'ai déjà vu deux fois et je retourne le voir parce qu'elle vient en Creuse la semaine prochaine. Donc forcément, comme elle vient chez moi, je vais la voir encore une fois. Et elle a fait une sortie hier, je pense qu'on va en écouter un bout. Dans le monde du spectacle, c'est particulièrement courageux d'avoir sorti ce qu'elle a sorti. D'ailleurs, on voyait dans le public les tronches de certains qui étaient... Enfin, elle a été quand même applaudie, hein, c'est ce qu'il faut souligner. Mais pour rappeler les indignations sélectives et le silence assourdissant, parfois, notamment du monde de la culture, sur les massacres du 7 octobre et l'indignation sélective entre Gaza et les victimes israéliennes du 7 octobre. Et ça a été... vraiment, enfin, ça change, que ce soit au Molière ou au César, avec des interventions qui vont toujours dans le même sens à quelque chose près. Ça change vraiment d'intervention et c'était courageux de sa part dans ce monde de la culture qui, voilà, est bien souvent idéologisé et toujours du même côté globalement, d'avoir cette sortie-là équilibrée, qui plus est, hein, parce qu'évidemment, il s'agit pas de dire que ce qui se passe à Gaza est très bien, hein, c'est pas du tout la question, mais de pointer le silence assourdissant par moment sur.
Est-ce qu'on pourrait pas se taire et arrêter de mettre de la politique partout? On était au Molière du théâtre, j'avais envie qu'on parle de théâtre, j'en peux plus.
Oui, mais c'est une humoriste politique, donc c'est normal qu'elle parle aussi
Écoutez, vous avez regardé ou pas?
Oui.
Vous avez regardé toute la cérémonie?
Pardon?
Vous avez regardé toute la cérémonie?
Non, j'en pouvais plus. C'était franchement... Alors, je plains l'animatrice, c'est très difficile, donc on ne peut pas critiquer.
C'est une comédienne, Caroline Vigneault.
Elle était trop présente, trop rapide, trop partie prenante. Ils ont fait... Alors, c'était drôle, c'était la tête de Rachida Dati, parce qu'on l'a montré beaucoup, et on montrait les autres, elle ne riait pas du tout. Ils étaient supposés faire de l'humour, je n'ai pas trouvé ça drôle. Et moi, j'adore le théâtre, donc...
Allez voir le spectacle de Sophia, parce qu'il est drôle.
Alors, on va écouter un extrait de ce qu'elle a dit hier, de cette intervention.
Voilà. Nous qui partageons la liberté de pousser un cri sur toutes les scènes de France, ou de hurler nos indignations sur tout et n'importe quoi dans des tribunes, dont la plupart sont co-signées par Annie Ernaux, je pense que nous devrions aussi... faire attention à nos silences. Car voyez-vous, dans le brouhaha de nos indignations faciles, le silence, même relatif, après ce 7 octobre, dans lequel 1200 Israéliens ont été massacrés, est assourdissant. Et s'il est évident que nous partageons tous ici les appels au cessez-le-feu, comment être solidaire des milliers de civils morts à Gaza sans être aussi solidaire des victimes israéliennes ?
Moi, j'ai été étonnée de la réaction de la salle.
Oui, moi, qu'elle soit applaudie, j'ai pas attendu qu'elle soit huée.
Oui,
moi,
absolument, j'ai été étonnée. Mais je me suis demandé si elle avait eu le discours inverse, si elle n'aurait pas été applaudie quand même. Enfin, c'est une réflexion que je me suis faite. Mais
il y avait des gens qui faisaient la gueule. Mais elle n'avait pas été applaudie par tout le monde, ils filmaient la salle pendant ce temps. Et...
C'était assez courageux. Et j'ai regardé les réseaux sociaux et elle s'est pas tant fait insulter que ça. Elle a eu beaucoup de... Un peu, mais
si,
beaucoup de félicitations.
Je me suis pris la gueule avec un ex-collègue Aurélien Taché cette nuit, d'ailleurs, Mais bon, bref.
Pourquoi débattre
Surtout à 2h du matin, c'est ce que je lui ai dit, mais dans l'état dans lequel il devait être. Mais bon, c'est comme ça.
Je crois que c'est vrai qu'il y a des silences. Je pense notamment à l'Iran, parce qu'on parle de Gaza, mais j'aimerais aussi rappeler qu'une répression terrible s'abat sur l'Iran, sur les femmes iraniennes, sur les artistes iraniens, sur les jeunes iraniens.
Un rappeur iranien.
Et aujourd'hui, sur la société iranienne en général, d'un régime qui se maintient à coup d'incarcération, de torture, de meurtre et ainsi de suite. Voilà, c'est vrai qu'il y a des sélections. Il y a des sélections pas simplement par rapport à Gaza, par rapport à Israël, il y a des sélections par rapport à des événements qui se passent en France. Voilà. Il y a des morts qui sont célébrés, ou en tout cas qui sont poussés, et des autres qui sont laissés à l'abandon complet, non pas simplement du monde de la culture, mais parfois aussi de certaines parties du monde politique. Je crois qu'il y a effectivement des sélections. Alors, on a le droit de faire une sélection. On a le droit de s'émouvoir plus pour certaines causes que pour d'autres. Ça, il n'y a pas de souci. Ce que voulait dire Madame Aram, si je pense pouvoir le dire, c'est qu'effectivement, il faut faire attention au silence, il faut être plus équilibré. Malheureusement, sur ce sujet qui concerne Gaza et Israël, et d'ailleurs, c'est pour la reprendre, il n'y a pas que des Israéliens qui sont morts le 7 octobre, faut quand même le dire, il y a des Français, des Américains, il y a beaucoup de gens, c'est pas simplement ça. Et sans juger de ce qui se passe aujourd'hui, je crois que c'est vrai qu'il faut regarder ce qui se passe en France. Gabriel Attal a annoncé hier 300% d'augmentation d'incidents antisémiques. Je crois que c'est quelque chose qui aujourd'hui doit nous interpeller. C'est-à-dire que, évidemment, que le silence est terrible, mais et parfois il peut même être complice. C'est-à-dire que pour le coup, elle peut aller plus loin de ce qu'elle a dit. C'est-à-dire qu'elle est restée. Pourquoi elle a été applaudie ? Parce qu'elle est restée finalement assez consensuelle. Je pense qu'aujourd'hui, il y a besoin d'aller plus loin, avec les verbatims, notamment des gens de la culture ou d'autres, s'ils en ont envie, parce qu'ils sont pas obligés d'être là. Je suis d'accord avec Sophie. Mmh. C'est pas obligé qu'un artiste a pas besoin forcément de faire de la politique, un sportif encore moins, si vous voulez. Il y a pas besoin de faire ça. Mais lorsqu'on le fait, je pense qu'il faut aller. Encore peut-être avec plus de force qu'est-ce qu'elle l'a fait, peut-être moins dans l'humour, parce qu'on parle de choix, de situations tragiques pour commencer. Non pas le 9, le 10, non pas après l'intervention d'Israël à Gaza, mais le 8 au matin. Et ce qui veut dire qu'on est dans quelque chose qui est profondément inscrit, qui doit nous interroger et qui nous parle à nous, parce que c'est dans notre société, c'est pas au Moyen-Orient, c'est pas aux États-Unis, dans des campus minoritaires ou simplement devant Sciences Po où il y avait 40 personnes. 50, 60 maximum, et qui ont bloqué la totalité d'une institution, avec la complicité de la direction et de certains enseignants, voire de celle du gouvernement, qui n'a pas bien compris les enjeux au départ. Je me tourne vers quelqu'un qui appartient à cette majorité et qui aujourd'hui dit qu'il suit par la ministre de l'enseignement supérieur. C'est grave de suivre, il faut dire non, c'est fini. Preuve, c'est qu'aujourd'hui, ça diffuse dans certaines universités et dans les lycées. Or, c'est très minoritaire, là, pour le coup. Et donc, il faut, à un moment donné, s'interroger. C'est pas simplement là-bas, c'est aussi ici. Elle a raison pour ça, de fixer le coup de projecteur. Peut-être sur les scènes de théâtre, mais moi je le ferai encore plus durement. Non, parce que
elle fait des chroniques hebdomadaires et elle est parfois beaucoup plus dure que ce qu'elle a vu l'été dernier soir.
Ce que vous dites, c'est vrai, bien sûr, mais c'est surtout l'autorité qui manque, quoi. Et je veux dire, c'est pour ça que les Français vont voter au lieu de voter pour les Européennes. Ils vont voter pour ceux qui disent qu'ils vont être autoritaires. C'est terrifiant.
Comme ailleurs. De toute façon, moi, ces cérémonies-là, je trouve que ça n'a strictement aucun intérêt. Ouais. C'est indigeste, c'est très indigeste à regarder. Et donc, le propos de Sophie Aram, moi, j'ai trouvé déjà très fin, très subtil. Cette fille, en plus, a beaucoup de talent, ce qui ne gâche rien. On connaît beaucoup de personnes qui prennent, notamment des humoristes, qui prennent des positions politiques et qui, en plus, n'ont aucun talent. Elle, je trouve qu'elle en a beaucoup, donc ça ne gâte rien. Ouais. Et en plus, sur la question de prendre la parole sur un sujet politique, je suis d'accord avec Sophie, ça devient écœurant dans ce type de cérémonie, mais là, elle réagit un peu justement à ce phénomène en disant, voilà, on a une indigestion toujours...
Mais je n'ose pas penser au festival de Cannes.
Il faut voir le déferlement de haine qu'elle prend dans les programmes.
Mais c'est-à-dire qu'on entend quand même plutôt des Corinne Maziero à poil avec des Tampax dans les oreilles défendre les intermittents que ce discours-là. Et puis à ceux qui me disent, mais on ne l'a pas entendu sur les soignants et tout.
Il y a toujours quelque chose qu'elle a loupé.
Quand elle a obtenu le Molière, parce que ça c'était une intervention à part, quand elle a obtenu le Molière, elle a dédié ce Molière aux antivax, aux complotistes, aux populistes d'extrême droite ou gauche et aux islamistes. Voilà, la liste est complète. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio.
Sud Radio Limoges.
95.
Sud Radio.
Tant qu'on joue, peu importe de gagner la vie, c'est à sillonner les années et tant pis. Il y aura des jours sans, des galères, des soirées qui feront venir le soleil en pleine nuit. Je t'aime, autant le dire comme le monde n'attend pas. Dis-leur que l'avenir se fera pas sans moi. Des couleurs, il en faudra. L'espace est la tempête, on est plus fort que ça. Plus rien nous arrête, on est plus fort que ça. L'espace est la tempête. Jusqu'au bout, peu importe les avis, j'encaisse.
J'ai additionné les échecs et tant pis. Si je perds sur la route de mes rêves, des amis qui durent et je croyais pour la vie. Si tu l'aimes, autant lui dire et le reste attendra. Je croyais que l'avenir ne se finissait pas. Je vais courir et ça ira. L'espace est là.
Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.
Pour poursuivre quelques instants sur le sujet de Sophia Aram et la liberté d'expression et autres, les syndicats de Radio France appellent à faire grève dimanche après la suspension de Guillaume Meurice. Il faut savoir que dimanche dernier, il y a eu une émission entière de Charline Van den Ecker, émission dans laquelle intervenait Guillaume Meurice.
Il faut rappeler qui est Guillaume Meurice.
Guillaume Meurice, c'est cet humoriste qui a comparé Netanyahou à un nazi sans prépuce. Donc c'est un humoriste. Moi, je pense que voilà, à partir du moment où ça ne tombe pas sous le coup de la loi, c'est pas drôle, ce qu'on veut, mais aller en justice n'est pas forcément la meilleure des choses. Mais la direction de France Inter a donc décidé d'écarter cet humoriste. Ils ont fait une émission entière de défiance vis-à-vis de la direction. Dans quelle entreprise, aujourd'hui, dans quelle entreprise privée, vous pouvez dire que votre patron est un con? Enfin, je veux dire, publiquement, à l'antenne.
Vous avez raison, ça fait partie du droit au licenciement.
Vous parliez d'autorité, je n'ai jamais vu ça nulle part. Vous avez un deux, même si vous n'êtes pas d'accord avec des choses qui se passent au sein de votre entreprise, si vous n'êtes pas d'accord, vous partez. Mais publiquement, je ne me vois pas faire une émission.
Alors, ça existe dans les réseaux sociaux, dans les entreprises, parce qu'il y a des salariés qui peuvent le faire, et ça fait partie, on va même pas au prud'homme, on va nulle part, dénigrer son entreprise en public avec des témoins fait partie des motifs de licenciement, point barre.
Oui. Oui. Non mais
alors je sais bien que c'est un humoriste.
La mise à l'écart de Guillaume Meurice est une idiotie, parce que si il est pas drôle, on rit pas et on change de chaîne.
Non, on n'a pas forcément gardé.
Sophie, j'aille jusqu'au bout. Mais ce qui me gêne, donc moi je suis pas d'accord avec la mise à pied de Guillaume Meurice, l'émission était indigne aussi, mais la liberté d'expression, ce qui me gêne plus, c'est que ces gens-là, Guillaume Meurice, Van den Ecker et compagnie, Guillaume Meurice que je connais bien parce qu'il m'a tapé dessus très régulièrement pendant mon mandat, pour le côté, c'est un vegan, militant vegan, et donc j'en ai pris plein la tête en tant qu'éleveur. Mais bon, bref, peu importe, je défends le fait qu'il ait le droit de continuer à faire de l'antenne. Il est pas drôle, il fait pas rire tout le monde, ceux qui fait rire tant mieux, ceux qui fait pas rire tant pis. Mais ce qui m'agace, c'est que ces gens-là se présentent en défenseurs de la liberté d'expression, alors que c'est les premiers à expliquer qu'il faut interdire ces news et interdire un certain nombre de chroniqueurs qui ne conviennent pas à leur idéologie politique. Donc la liberté d'expression, elle est pour tout le monde, elle est quelles que soient les convictions, sauf ce qui est pénalement répréhensible, évidemment. Mais le problème, c'est qu'ils ne défendent pas la liberté d'expression.
Objection, suis d'accord, on doit défendre la liberté d'expression, mais est-ce que, sous prétexte de défendre la liberté d'expression, on doit garder une émission qu'on ne veut pas?
Ah ben ça non, enfin bah c'est voilà. C'est responsable.
Non mais c'est différent, une émission, c'est différent, c'est un peu différent.
C'est une prise en otage d'une antenne. Après, c'est aussi une, mais c'est très culturel à Radio France, au sens où il y a, c'est pas un précédent. il y a eu des réactions par rapport à certaines directions. C'est des maisons où il y a des équilibres, je dirais, organisationnels et sociaux qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe dans le monde privé, pour une bonne partie, heureusement, parce que ça veut dire aussi que ça ouvre la possibilité parfois d'avoir des versions différentes qui s'affrontent, qui s'opposent. Parfois non, mais en tout cas, c'est un petit peu ce qui est considéré comme un ADN central, si vous voulez, de Radio France, notamment par les journalistes et un certain nombre d'acteurs qui y travaillent. Après, on peut le regarder différemment, effectivement. Est-ce que cette entreprise, qui est après tout une entreprise dite publique, elle doit obéir aux mêmes règles? Est-ce qu'elle doit avoir un espace là aussi où il peut y avoir des événements parce que les membres salariés ou les agents de cette entreprise peuvent aussi, quelque part, ça rejoint non pas la grève, mais c'est du rapport de force, si vous voulez. La grève, c'est du rapport de force. Et donc, dans toute organisation aujourd'hui, il y a des rapports de force, qu'elles soient publiques, qu'elles soient privées. Est-ce qu'on doit pour autant l'interdire? C'est différent. Là, la direction, elle peut pas intervenir, puisque elle va pas couper l'antenne. Elle n'a comme ressource, à ce moment-là, que de couper l'antenne et d'arrêter de mettre de la musique à la place de l'émission si elle considère que c'est pas bien. Ça serait un précédent qui remonterait. Alors là, pour le coup, ce serait un vrai précédent. On irait très loin. On en appellerait à votre ami le président de la République, et ainsi de suite. Et donc, c'est compliqué. Maintenant, après, vous pouvez poser la question, parce que cette entreprise, elle est aussi la nôtre. C'est-à-dire que pour le coup, elle appartient à tout le monde. Elle n'est pas simplement celle des. Voilà, exactement. Et donc, il y a une réflexion à voir qui est en cours, qui aurait dû être en cours. C'est une des promesses du président de la République, notamment entre France Télévisions et Radio France. On n'est pas allé au bout, on n'est pas allé très loin d'ailleurs sur cette question-là. Et les fondamentaux de ces organisations demeurent, c'est-à-dire que, notamment Radio France plus qu'à France Télévisions, le poids et la force d'un certain nombre d'acteurs à l'antenne est beaucoup plus puissant, notamment certains ou certaines, parce qu'ils pèsent davantage dans le résultat d'audience et d'audimat que dans d'autres qui sont plus lointains.
Mais je reviens sur la question de l'autorité, c'est-à-dire dans quelle entreprise privée aujourd'hui ce type de comportement serait autorisé. C'est que aujourd'hui le service public, il n'y a pas de...
Et la retraite à la SNCF, tiens.
Il y a un côté Mathieu un peu théâtral Béchel là-dedans aussi. Je pense que en réalité, France Inter va faire des audiences aussi avec ça. Enfin,
Bien sûr. Et
parce que va y avoir la contestation, les gens vont aller regarder. Donc en réalité, moi je suis à la direction de France Inter. Je regarde avant de, je me dis que je peux tirer les marrons du feu aussi. C'est malheureusement, c'est l'époque du buzz, mais ça fait le buzz, donc ça fait de l'audience. Deuxièmement, je suis d'accord avec ce qu'a dit Jean-Baptiste Moreau. On aime ou on n'aime pas l'humour de Guillaume Meurice. De toute façon, l'humour c'est très subjectif. Chacun peut avoir une approche différente d'un même sketch ou une même phrase. Moi, ça me choque un petit peu qu'il y ait eu cette éviction et surtout le côté judiciarisation de l'humour. Effectivement, c'est très limite ce qu'a dit Meurice. Mmh. Et en même temps, les unes de Charlie Hebdo sont très limites aussi. Il y a une tradition d'humour en France, Harakiri, professeur Choron, et toute cette école d'humour extrêmement limite qui est dans la provocation. Est-ce que pour autant il faut que ça se finisse en garde à vue? Je ne pense pas. On parlait de pivot tout à l'heure en disant on pourrait plus dire ça aujourd'hui. Bah là, c'est un exemple. Certes, un peu différent, mais il faut pas offenser, donc on arrive sur un robinet d'eau tiède où on va faire un humour inclusif, où il faudra pas taper sur telle communauté, taper sur les handicapés, taper sur les femmes. Ça. L'humour, c'est forcément, ça peut être vulgaire, ça peut sortir du cadre, c'est le principe.
Alors, on réclamait de l'autorité, à l'instant, la dépêche qui vient de tomber, le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, sera remplacé après les Jeux Olympiques.
donc c'est notre ami Bruno Le Maire.
Voilà, il ne sera pas reconduit pour un deuxième mandat à la tête du groupe ferroviaire, mais poursuivra sa mission pendant l'été, pour les Jeux Olympiques. Après la compétition, la présidente de l'Assemblée nationale seront saisies par le président de la République du nom du successeur envisagé de Monsieur Farandou. Donc, il est très clairement puni
pour
sa décision de retraite.
Mathieu,
ça fait un peu République bananière quand même, ce truc.
Je trouve vraiment.
Enfin, je connais pas personnellement Monsieur Farandou, mais le côté où en fait, en gros, il y a une entreprise qui est certes publique, mais qui a quand même des marges de négociation avec un PDG qui, parce que il a réalisé un accord qui déplaît, on a un communiqué qui tombe, de Bercy, d'un ministère, en disant qu'il va être remplacé.
Mais tu t'aimes.
Oui, sauf que...
Moi, je trouve que c'est un peu limite.
Il a voulu, en faisant ça, éviter la grève pour les Jeux Olympiques, parce qu'il avait des ordres évidents d'éviter la grève pour les Jeux Olympiques. Cela dit, ce qui est vrai, c'est qu'il l'a fait tout seul et que...
Mais tout seul, il a pas reçu les syndicats tout seul dans son bureau. Il y a un conseil d'administration dans lequel figure des membres du ministère de l'économie et des finances, une entreprise publique.
Oui, je sais, mais ils l'ont pas dit. Ça circule plus. La France est paralysée. Il y a tellement de strates que l'information,
après,
et c'est vrai.
Pardon. D'accord, je suis pas sûr que ça passe devant le conseil.
Un accord aussi important que celui-là qui concerne la retraite et d'allonger.
Moi, je suis sûr qu'ils sont tombés du placard, certains.
Ouais. Je trouve que M. Farandou est un fusible assez commode dans cette affaire, quand même.
Oui, oui, on n'en sait pas tellement plus, mais en tout cas, ça paraît aberrant tout de même que le gouvernement n'ait pas été au courant.
Il n'était pas au courant. C'est ça le grave.
D'un enjeu, de décision aussi importante. Je ne sais pas, Jean-Christophe.
Ça obéit à ce moment-là à des règles, non pas d'inorganisation, mais c'est clair que les capteurs sont plus là. Et moi, j'ai un petit doute quand même sur l'idée qu'on n'est pas. Alors, ça passe pas au Conseil des ministres, c'est évident. C'est sûr que c'est pas ça. C'est pas un sujet quand même de Conseil des ministres. Par contre. J'espère qu'à l'intérieur de l'appareil institutionnel de la présidence, du premier ministre, de ministère de tutelle en l'occurrence, on est capable quand même d'être informé, de discuter, de suivre et de réagir en amont si on doit réagir en amont. Sinon, ça veut dire que pour le coup, c'est un peu compliqué. C'est quand même pas n'importe quoi la SNCF. À la fois, parce qu'en termes de poids économique, en poids de responsabilité, un opérateur du rail en France, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, à partir de là, on doit faire attention parce que c'est un sujet éminemment politique, quoi qu'il arrive. Oui. Alors après, la mesure, elle est forcément politique. Oui. Elle est forcément politique parce que c'est un objet politique, la SNCF.
Mais t'es quand même obligé de le virer, non ?
En tout cas, ça voudrait démontrer ce que demande Sophie de l'autorité.
Oui,
on a besoin d'affirmer aujourd'hui dans des secteurs peut-être un peu faciles, Mathieu a peut-être raison, de l'autorité. Comme on n'en a pas sur les pauvres personnes devant Sciences Po, on en a avec le président de la SNCF.
L'autorité, quand on est incompétent, c'est...
Je ne suis pas d'accord avec vous là-dessus.
Le gouvernement est incompétent. C'est le gouvernement qui est incompétent. Donc vous punissez quelqu'un pour une faute que vous avez commise.
Mais il faut toujours essayer de faire vivre le dialogue social dans son entreprise. Enfin, je veux dire, il y a un moment où Sophie devrait être d'accord avec moi, normalement, sur la responsabilité des entreprises. Il faut laisser un peu de marge. Enfin, on va en parler tout à l'heure, mais sur la question des grèves. Mais il y a un moment où il faut aussi, peut-être, laisser une marge de manœuvre aux partenaires sociaux qui ont, depuis trop longtemps, été considérés comme du menu fretin. C'est les corps intermédiaires. Vous savez, j'en ai déjà parlé ici, c'est un peu ma marotte. Les corps intermédiaires, le Nouveau Monde, à un moment, nous a dit, on s'en fout, ça n'existe plus. Les représentants des syndicats, c'est des ringards. Les représentants des syndicats patronaux, c'est des ringards aussi, on n'a plus besoin d'eux. Sauf qu'en réalité, on se rend compte que quand le dialogue social est bien mené, parce qu'il y a des gens responsables souvent des deux côtés, lorsqu'il y a des négociations qui se font avec des personnes responsables, on peut arriver à des accords et la grève, c'est généralement quoi ? C'est un point de friction. Lorsqu'on n'arrive pas à négocier, on arrive. Voilà. Quand on compare à d'autres pays.
Ou un moyen de pression.
Pas forcément. Ça, je sais que.
Vous arrivez aux Jeux Olympiques, on voit bien que ça a été une aubaine pour négocier.
Parce que c'est un moyen d'effectivement d'ouvrir des négociations. Mais moi, en fait, tout ça part d'une proposition de loi. Enfin, on a vu le Sénat a commencé à travailler là-dessus. Il y a un député de la majorité, M. Zulesi, qui veut reprendre ça à l'Assemblée et faire une proposition de loi. Moi, j'ai envie de dire, essayons d'arrêter de faire moins de lois, peut-être de meilleure qualité, et de laisser un petit peu de liberté aux négociateurs, aux gens qui sont sur le terrain, et à ceux qui peuvent essayer de trouver des négociations et des accords.
Moi, je suis complètement d'accord. Effectivement, il faut respecter le dialogue social, et le rôle des syndicats est important, et si on veut reconstruire du commun, c'est essentiel. Effectivement, on est d'accord. Maintenant, quand on fait une réforme des retraites pour faire des économies et essayer de faire en sorte de financer justement ce régime des retraites, et que vous avez une entreprise publique qui fait de la dette en quantité industrielle depuis des dizaines d'années et qui se permet justement de passer un accord qui va coûter à tous les contribuables, quoi qu'ils en disent, puisque de toute façon, la SNCF n'est pas à l'équilibre et de toute façon, le contribuable continuera à renflouer. C'est un accord. Enfin, il s'est acheté la tranquillité, le PDG de la SNCF, c'est tant mieux pour lui. Mais honnêtement, au prix de l'imposition de chaque contribuable. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, si la SNCF faisait des bénéfices et finançait cette générosité sur ses bénéfices, aucun souci. Moi, j'ai aucun sujet avec ça. C'est son choix. Tant qu'elle fait du déficit et l'État est obligé de combler, on ne finance pas sur le bien commun des avantages sociaux.
Enfin, c'est celui qui a été piqué, mais je ne vous raconte pas les autres, parce que tout le monde est en train de négocier. Et même les policiers, ce qu'on peut comprendre.
Mais là, on a les éboueurs qui sont en grève, on a les policiers qui vont réclamer aussi d'autres primes. Bref, on se retrouve dans un instant, on pourra parler de ce droit de grève. Est-ce qu'il faut le réformer? À tout de suite.
Sud Radio Tulle.
95.4.
Sud Radio.
ain't Texas. Ooh. Ain't no hold 'em. Hey. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus. Ooh. And throw your keys up. Hey. Stick around, round, 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 round.
Stick around.
And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come throw some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a hey. Come take it to the floor now. Woo! There's a tornado.
Ooh, tornado
in my city.
In my city,
in the basement.
The basement.
That ain't pretty.
Ain't pretty.
Rugged whiskey.
We're surviving.
Of red cup kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right, we headed to the dive bar. We
Texas, ooh. Ain't no hold 'em.
Hey.
So lay your cards down, 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 down.
So pop your Lexus,
ooh.
Throw your keys up.
Hey.
Stick around, round, 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 round.
Stick around.
And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a
hey.
Come take it to the floor.
And I'll be
now.
Damned ooh. If I cannot dance with you. Come
Valérie Expert.
Pour poursuivre notre débat, on va continuer avec ce texte refusé par l'exécutif, qui refuse donc ce texte qui veut réformer le droit de grève dans les transports. C'est une proposition qui prévoyait d'encadrer le droit de grève et donc l'Assemblée ne souhaite pas, et les deux chambres ne souhaitent pas qu'on encadre le droit de grève. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je pense que l'Assemblée a raison, parce que autant le droit de grève ne doit pas être le même, à mon avis, dans le privé et dans la fonction publique, autant encadrer ça pour la période des vacances, je trouve ça nul. Alors, on va plus loin. Le droit de grève, qu'est-il ?
Est-ce qu'il existe dans le privé le droit de grève ? Est-ce que vous avez beaucoup d'entreprises privées où il y a des grèves ?
J'ai bossé dans le privé pendant très longtemps, ça m'est arrivé, parce que j'étais délégué syndical. Ça m'est arrivé rarement, mais ça m'est arrivé deux, trois fois de faire grève et de poser un jour, qui, alors, je rappelle, qui dans ce cas-là est déduit de son salaire.
Moi, j'ai eu une grève.
Ça m'est arrivé,
Une demi-journée.
Mais oui, c'est quand même
c'est clair que dans le rapport de force, on utilise souvent d'autres moyens parce que c'est compliqué et que l'amont et la négociation régulière se fait. Alors après, il y a des moments compliqués dans le privé, c'est quand on est en fermeture, quand on a une possibilité de fermeture d'activité. Là, on est face à des situations qui sont plus complexes que dans le temps normal d'activité. Ça, c'est clair que par rapport au public, on a une vraie différence. Après, ce qui est terrible dans le public, c'est aussi lorsqu'il y a sur les mobilités, un monopole, si vous voulez, d'exercice de l'activité du secteur public, de cette mobilité. Parce que pour le coup, ça impacte non seulement les gens qui partent en vacances, ça c'est une réalité, mais aussi les flux économiques. On a besoin effectivement de se déplacer. C'est un monde où les stocks sont dans les camions ou en tout cas dans les trains et ainsi de suite. Donc on est dans quelque chose qui, pour notre économie en général et pour notre vie quotidienne en général, a besoin quand même sinon d'être adapté.
Mais il faut le revoir en profondeur.
Exactement. Et c'est un point essentiel et pas simplement pour des périodes de tension particulières qui sont effectivement les vacances. Et je pense en particulier à quelque chose qui est incroyable, ce qu'on appelait les aiguilleurs du ciel, les contrôleurs aériens, qui travaillent déjà 21 semaines par an, pour bien les connaître et concrètement, et qui sont très bien payés, qui chaque fois font le coup avant le début des vacances pour augmenter un peu davantage ou pour baisser la charge de boulot qui est déjà assez limitée. Donc ça, c'est d'ailleurs partout en Europe, pas simplement ici. Ils sont des fonctionnaires, il faut se rappeler, c'est pas des gens qui travaillent dans le privé, et ils ont été formés et payés à l'École nationale d'aviation civile. Donc là, c'est assez scandaleux. Les contrôleurs aériens, c'est absolument scandaleux. Sur d'autres acteurs, on peut parfois avoir des rapports de force qui utilisent des situations, les Jeux Olympiques en sont une. Mais là, c'est aussi, vous parliez d'autorité tout à l'heure, il faut à un moment donné que les autorités de tutelle soient capables, sinon de prendre des mesures d'exception, mais en tout cas d'être capables de dire à un moment donné, cette période-là est sanctuarisée parce qu'on ne peut pas faire autrement, et on aura une discussion, une conversation d'acteurs sociaux, raisonnables et responsables après. Mais dans une période comme celle-là, dire qu'on va bloquer les transports à Paris ou en Ile-de-France, c'est vraiment fou.
Des lois, il y en a déjà eu. Sarkozy avait fait passer des lois sur notamment le service minimum et autres. Ça ne fonctionne pas ou ça fonctionne mal. Du moins.
Donc pourquoi ça fonctionne pas par manque d'autorité?
Parce qu'on ne fait pas respecter la loi.
Ça ne veut pas vous étonner, je ne suis pas du tout d'accord avec avec ce qui a été dit. Le droit de grève, on va répéter, c'est un droit constitutionnel. La grève, ça emmerde les gens. On découvre ça, mais c'est le cas, ça a toujours été le cas, sinon ça n'a pas lieu d'être.
Et à chaque fois, on nous dit qu'on va réglementer.
Mais non, mais du coup, qu'est-ce que vous
avez dans le pays où ça se passe autrement
parce qu'on en parlait, c'est la question du dialogue social, c'est autre chose. Mais si on parle de la grève en soi, la grève, c'est fait pour embêter. C'est un moyen de pression pour la négociation. Qu'est-ce qu'on va faire dans ces cas-là? On va dire, alors vous pouvez faire grève,
mais alors pas Noël, pas les.
Le but est que ça embête, c'est pour faire pression.
Ça embête dans un rapport de force entre deux personnes. Pourquoi aller chercher un tiers ou de confiance ou de soutien qui d'ailleurs des fois soutient? Non, pas tout à fait. Il y a des secteurs où on peut embarquer.
Ça a souvent été
dans les stratégies politiques ou d'influence, on essaie d'élargir et d'impliquer un certain nombre d'acteurs à l'intérieur. Donc en l'occurrence, le public, le grand public, qui n'est pas concerné directement par un combat social à l'intérieur d'une entreprise, qui peut le respecter, parfois le soutien d'ailleurs, parfois le soutien, même quand il y a des grèves électriques, ainsi, parfois le soutien dedans sur les retraites.
Il n'y a pas si longtemps
Mathieu, c'est pas un gros mot, c'est pas un état d'exception, c'est pas une dictature qui ferait que pendant une période, on a besoin d'être responsable dans une situation de trois semaines, un mois, pour dire à un moment donné, parce que sinon là, c'est pas du rapport de force, c'est de l'exploitation abusive et opportuniste d'une situation. Ça n'a rien à voir.
Ça dénature.
Faites-le à un autre moment, faites-le à un autre moment.
Non, ça dénature de fait totalement le principe du droit de grève.
C'est ça, on doit choisir.
On n'a pas le droit de faire de grève à Noël, on n'a pas le droit de faire pendant les JO,
non.
Pas le droit de faire pendant la Coupe du Monde, pas le droit de faire pendant les soldes.
Du coup,
ça vide totalement. Si on a le droit de faire grève le 4 novembre entre 3h et 5h du matin,
c'est gentil de dire qu'on ne peut pas s'adapter.
Mais comment explique que dans d'autres pays, il n'y a pas besoin d'arriver à ces extrémités de grève et qu'on a des syndicats qui arrivent à négocier avec des patrons? Enfin, je veux dire, les patrons français et les syndicats privés ne sont pas plus cons, ni plus exploitants, ni plus exploités que dans d'autres pays, notamment voisins. Enfin, je veux dire, donc pourquoi est-ce qu'on est obligé d'arriver à systématiquement ces excès? Peut-être parce que les demandes sont aussi dans l'excès. Enfin,
Il n'y a pas non plus
les syndicats sont politisés.
Ils font de la politique.
Les syndicats pas trop aussi dans ces cas-là.
Vous parliez de marronniers tout à l'heure. La grève, c'est quasiment la grève estivale, la grève de Noël, la grève, ce sont des marronniers. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qui est différent. On n'est pas dans le combat social, on n'est pas dans la lutte sociale, on est dans l'exploitation opportuniste d'un marronnier. On sait qu'on va avoir de l'écho, on sait qu'on va avoir. Et donc, à partir du moment où on préannonce, c'est pas une situation de crise, c'est une situation permanente de rapport de force. rapport de force, comme vous le dites très bien, pourrait être exercé dans d'autres endroits différemment. Et là, on parle essentiellement et très largement du secteur public. Pour revenir à ce que vous disiez, ça n'est pas existant dans le secteur privé. Allez demander à quelqu'un s'il va faire grève avant Noël, alors que ça concerne le chiffre d'affaires de l'entreprise. Mais lui-même va être impacté. Quoi. Est-ce que quelqu'un va faire avant l'été dans un transport privé? Jamais de la vie, parce qu'il va être impacté. Comme par hasard, ça concerne des gens qui ne sont pas intéressés ni associés, peut-être, au chiffre d'affaires de la dite entreprise. Donc c'est pas normal. Et c'est le chiffre d'affaires du pays. Et c'est le chiffre d'affaires du pays qu'on impacte après. Et la réputation du pays.
Tout ramener au secteur privé. Il y a un fonctionnement du secteur privé, un fonctionnement du secteur public.
Pourquoi la grève est simplement le secteur public? Parce que vous n'avez aucun risque de vous faire virer. Vous n'avez aucun risque de vous faire virer dans le public, dans le privé.
C'est pas forcément si mal que ça.
Sauf que Mathieu, c'est bien gentil de dire qu'à ce moment-là, c'est pas si mal. Moi aussi, je vais me dire.
Mais en réalité, on a l'impression que les fonctionnaires sont tous des gens qui veulent.
C'est qu'ils exploitent une situation. Ils exploitent une situation. On peut leur dire à un moment donné, cette période-là est sanctuarisée, que vous le vouliez ou pas. Elle est sanctuarisée.
Je pense que c'est pour le coup, c'est vraiment
une question
de couteau.
C'est une question de dignité. C'est une question d'attitude citoyenne. Là, je prends juste les Jeux Olympiques. Même éliminons les autres périodes. Là, c'est la honte.
Avoir quelqu'un
qui dit j'ai les Jeux Olympiques, mais moi, je crois qu'il ne faudrait pas céder. C'est ce que j'ai écrit d'ailleurs dans un article.
Je sais, très bien écrit, mais par contre, sur le fond, j'ai trouvé ça un peu excessif.
Non, mais il y a un moment où on a envie de dire non. On peut pas laisser, sinon ça va s'embraser.
Moi, je respecte les revendications des femmes et des hommes qui revendiquent pour leurs droits. Voilà. Alors, les Jeux Olympiques, il y a les Jeux Olympiques, mais j'ai pas envie, forcément. Moi, je dis la honte. J'aurais honte qu'on soit dans un pays où on va faire comme au Qatar pour la Coupe du Monde, on va mettre tout sous le tapis. J'ai pas envie que ce soit des JO comme il y a eu en JO en Chine. Moi, je me dis, un pays dans lequel la contestation sociale peut exister, y compris au moment des Jeux Olympiques, eh ben, ça fait partie de ce qu'est l'ADN de la France, où on peut effectivement.
La contestation sociale, simplement originaire, en origine du secteur public. Ça n'est pas possible ou ça n'est pas souhaité par les acteurs du secteur privé. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est en secteur public, et c'est pas encore une fois une récrimination, c'est pas une attaque ad hominem de ce corps qui est important pour nous, mais c'est une réalité. Une partie de l'économie de ce pays, effectivement, c'est l'activité publique. Mais elle est financée comment ? Elle est traitée comment? C'est pas la leur, c'est la nôtre à tous. Oui, et donc on a tous notre mot à dire sur cette activité. Quand on fait les Jeux Olympiques, effectivement, en Russie ou en Chine, on peut imaginer qu'il y a des règles particulières. Quand c'était à Londres en 2012, c'est très comparable à nous. Est-ce qu'il y avait de la grève? Est-ce qu'il y avait de la grève à Londres? Est-ce qu'il y avait de la grève en Grande-Bretagne? Jamais de la vie. Pourtant, il y a des grèves en permanence en Grande-Bretagne aussi. C'est pas possible. Et on veut, exactement. Donc on est dans un contexte où, à un moment donné, si ça vient uniquement du secteur public, parce qu'il y a une situation de protection particulière. Et heureusement pour une partie de leur activité, c'est quoi essentiellement? C'est le contrat qui leur permet d'être garanti dans cette contrat toute leur vie. Oui. Et donc lorsqu'on va ensuite faire grève parce qu'on veut gagner plus, parce qu'ensuite, eh bien on est dans une situation d'avantage parce qu'on ne peut pas être remis en question sur ce propre contrat, alors que dans le secteur privé, dans une relation qui est plus complexe, parfois plus dure, on ne peut pas le faire. Mais surtout, ça veut dire que collectivement on pourrait penser, et collectivement, je dis pas avec eux, contre eux, avec eux, à cette période de sanctuarisation, parce que peut-être pas les vacances, peut-être pas ce que vous voulez, et encore qu'il faudrait se poser la question, parce qu'eux-mêmes partent en vacances et parfois eux-mêmes sont concernés, eh bien, il y a un besoin d'avoir un regard collectif et apaisé sur des périodes qui sont essentielles.
Absolument.
On parle de quoi ?
Mais
on parle du chiffre d'affaires de la France, de la réputation de la France,
de la réputation de ce qui est de leur entreprise aussi, de la réputation de leur entreprise.
Et je vous signale que pour les poubelles, les de Richebourg, poubelles privées, n'a pas de menace de grève. C'est uniquement les poubelles, enfin.
Oui, c'est public.
Secteur public. Et la boîte privée, ben non, elle fait pas grève.
Oui. Alors une auditrice me dit, moi j'ai fait grève pendant un mois à Carrefour. Chez Carrefour, on a fait grève.
Oui, pas d'accord avec ça.
Au moment des départs en vacances,
on ne peut pas forcément commander en vacances.
aussi. Et, bah,
et ça
on
arrive
vous
aussi
va,
parce
on
que
va
c'est, un moyen, c'est un moyen de pression.
Ah bah
c'est
comme
lorsque les négociations ont souvent échoué.
Mais avec pas tous les mêmes pouvoirs de nuisance pour toutes les professions.
C'est la SNCF qui échoue en général depuis pas mal d'années et les syndicats ils sont pas
pour. Et coup de chapeau à l'hôpital qui, quand il fait grève, il y a marqué infirmière en grève, mais elle est là.
Et les policiers aussi. Normalement, ils n'ont pas le droit de faire grève. Allez, merci à tous les quatre. Très bonne journée sur Sud Radio.
Sud Radio Anglette.
103.9.
Sud Radio.
Pourquoi ce soir on n'irait pas danser très tard, même si c'est pas ton genre, je sais, même si tu es plutôt discret. On parlera de tout, de rien. On fera le monde, j'y connais rien. On se dira ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on aurait pu être, mais ce qu'on aurait pu être, mais
qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on en fera? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on en fera?
Les années filent, le même refrain, jamais le temps de rien, dans l'océan. Gardez le lien, Paris, Biarritz, avril ou juin. Pas beaucoup vu, vie dans les trains. Les disparus sont jamais loin. On a eu de la chance, c'est pas que de la chance, non, non. On a eu de la chance, c'est pas que de la chance.
Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on en fera? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on en fera?
On regardera soleil sur l'eau. On se dira rien de plus beau. Si tout fout le camp d'ici bientôt, comme on l'entend à la radio. Nous on est là, c'est déjà ça. La vie, le taf, ça va, ça va. Un jour viendra, nous partirons. Mais d'ici là,
qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent?
Qu'est-ce qu'on en fera?
Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on en fera? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on en fera?
Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent?
Sud.
Sud
Radio.
You said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works out, no.